Radio Okapi.
Washington récidive, nouvelle salve de sanctions de responsables rwandais privés de visa. Les États-Unis accusent Kigali de violer les engagements régionaux et durcissent le ton face à la crise dans l'est de la RDC. Congolais bloqués à Dubaï, la crise au Moyen-Orient cloue au sol le retour vers Kinshasa. La fermeture soudaine de l'aéroport de Dubaï provoquée par l'escalade des tensions entre Washington, Tel Aviv et Téhéran laisse des voyageurs congolais sans ressources contraints de prolonger leur séjour à leurs frais. Sanctions américaines, éclairage d'un acteur clé de la société civile congolaise, Jean Chrysostome Kidjana, modérateur de la coalition Tous pour la paix, décrypte pour nous la portée des sanctions infligées par les États-Unis à quatre hauts gradés de l'armée rwandaise et les réactions qu'elles suscitent au sein de la société civile du Sud Kivu. Bonsoir à toutes et à tous. Gisèle Cage au micro pour vous servir l'essentiel de l'info chaude, précise et vérifiée. Restez branchés. On démarre le journal complet maintenant. Le département d'État des États-Unis durcit le ton face à la crise persistante dans l'est de la RDC. Dans un communiqué publié ce 6 mars, le ministère américain des Affaires étrangères annonce une politique de restriction de visa visant plusieurs hauts responsables rwandais accusés d'alimenter l'instabilité régionale. Selon ce communiqué du département d'État, ses responsables ont continué de soutenir le M23 et de violer les accords de Washington, contribuant à attiser la violence dans la région du Grand Lac. Washington insiste, les engagements pris dans ces accords doivent être appliqués pleinement et sans délai. La RDC est appelée à neutraliser immédiatement le FDLR et ses affiliés, tandis que le Rwanda doit procéder au retrait total de ses troupes et équipements militaires du territoire congolais, une condition jugée indispensable pour libérer le potentiel économique immense de la région. Le département d'État avertit également que toute personne responsable, complice ou facilitateur direct ou indirect d'actes compromettant la paix dans le Grand Lac fera face à des conséquences concrètes, y compris de restrictions pouvant toucher certains membres de leur famille. Et justement, sur le terrain diplomatique, un autre signal d'alarme retentit. Le groupe de contact international pour la région du Grand Lac tire la sonnette d'alarme dans une déclaration conjointe aussi rare que sévère. Les États-Unis, plusieurs pays européens et l'Union européenne dénoncent des violations répétées et flagrantes du cessez-le-feu inscrit dans les accords de Washington et de Doha. Un front diplomatique uni face à une même constatation, la sécurité dans l'est de la RDC se dégrade à toute vitesse. Attaques persistantes, groupes armés toujours actifs, crise humanitaire qui s'aggrave. Les signataires rappelle à un retour immédiat au calme et à une application stricte des engagements pris. Une prise de position lourde alors que les tensions au Nord Kivu atteignent un niveau critique. Daniela Awa nous détaille cette mise en garde internationale.
L'ICG cite notamment l'utilisation de drones dans des attaques militaires, un nouvel élément jugé particulièrement dangereux pour les civils. Il ne peut y avoir de solution militaire au conflit, affirme le communiqué. Les groupes appellent donc les parties à cesser immédiatement les hostilités, à respecter leurs obligations internationales et à reprendre les négociations. La déclaration salue par ailleurs les efforts des médiations menés par l'Union africaine, le Qatar, la CERGEL et la MONUSCO, ainsi que les initiatives visant à rétablir un dialogue intercongolais inclusif, indispensable à une paix durable. Enfin, l'ICG exhorte les acteurs impliqués à garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave, à mettre fin à toute incitation à la haine ou à la discrimination, notamment envers les communautés rwandophones.
Et pendant que la diplomatie internationale s'active sur le terrain, les communautés tentent de survivre à Beni, au Nord Kivu. Des associations féminines ont interpellé ce jeudi la ministre britannique du Développement international et de l'Afrique, la baronesse Chapman de Darlington, en visite dans la région. Ces femmes demandent au Royaume-Uni de s'impliquer davantage dans la réforme du secteur de la sécurité et dans la lutte contre les ADF responsables des massacres à répétition. Elle évoque l'ampleur des violences, le traumatisme laissé dans leur communauté et l'urgence d'un soutien accru pour les survivants, notamment à travers des projets agricoles destinés à leur rendre autonomie et dignité. Parmi ces voix, celle de Noëlla Muliwavio, coordonnatrice de collectif des femmes pour le vulnérable. Elle s'exprime au micro de Martial Papimoukeba.
Nous avons montré que notre zone vise depuis 1996 dans la multiplicité des groupes armés. Nous avons cité d'abord les ADF qui ont commencé depuis longtemps. Ce que nous avons recommandé à la ministre est qu'elle doit renforcer la réforme du secteur sécuritaire au niveau de la RDC, mais aussi elle doit voir comment appuyer les femmes dans le projet des chaînes de l'agriculture, mais aussi voir comment entretenir des relations avec notre République démocratique du Congo pour appuyer les associations féminines en vue d'encadrer les victimes de massacres et les victimes de violences sexuelles, mais aussi les rescapés des tueries des ADF. Elle a été contente de voir comment elle palpe du doigt la situation qui se passe à l'est de la RDC et elle va s'impliquer de plus, mais aussi par rapport à leur plan d'action britannique. Elle a un plan d'accompagner l'agriculture dans la RDC avec notre gouvernement ensemble.
Lors de son passage à Beni, la ministre britannique a également rencontré le gouverneur du Nord Kivu, échangé avec des femmes engagées dans la consolidation de la paix au sein des Nations Unies avant de clôturer sa visite à l'hôpital général de Beni. Au nord, Ubangi, plus de 3000 éleveurs Mbororo multiplient les exactions et font monter la tension dans plusieurs localités. Une situation explosive que le gouverneur a portée ce mercredi au vice-premier ministre de la Défense. Réaction immédiate, Guy Kabombo Mwadiamvita ordonne un redéploiement express des FARDC pour reprendre le contrôle et rétablir l'ordre dans la province. Les précisions de Blaise Ndongala Mayanda.
Réunis en urgence mardi dernier à Kinshasa, de nombreux responsables du gouvernement central ainsi que ceux de l'exécutif provincial du Nord Ubangi ont examiné la question des éleveurs Mbororo arrivés avec près de 30 000 têtes de bétail au pays. Selon les autorités locales, ces nomades sont accusés de destructions répétées des champs, d'accaparement d'espaces agricoles ainsi que de multiples incidents violents faisant monter la tension au sein des communautés. À l'issue de cette rencontre, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant a ordonné le redéploiement des forces armées pour rétablir l'ordre dans cette partie du pays. Guy Kabombo Mwadiamvita estime également que ce dossier doit être porté au plus haut niveau de l'État avec une saisine directe au président de la République. Selon le gouverneur du Nord Ubangi, un jeune homme de 23 ans a récemment été mortellement poignardé lors d'une altercation impliquant un éleveur Mbororo. Ce drame a renforcé l'inquiétude au sein des populations de cette partie du pays, déjà fragilisée par une situation économique difficile.
Sud Kivu, dans les territoires de Shabunda, l'antipathie populaire ne cesse de grandir à l'égard des groupes Wazalendo. L'opinion publique les accuse désormais de barbarie contre les civils, mutilations atroces, pillages généralisés. La liste des exactions dénoncées s'allonge de jour en jour. Dans ces climats de plus en plus tendus, Jean Kassami nous fait le point.
Les Wazalendo, considérés jadis comme une force de résistance à l'agression de la partie est de la RDC, sont aujourd'hui déclarés indésirables partout à Shabunda et plus particulièrement dans la chefferie de Wakabango Premier, un groupement de Bamuguba Sud. Le coordonnateur national de l'ASBL Forum des Nationalistes joint sa voix à une multitude d'autres qui ne cessent de décrier les abus commis par les Wazalendo contre la population civile. Magene Kakumbujil.
Ces factions dirigées par des groupes de jeunes autoproclamés commandants sèment la terreur et le chaos dans les territoires de Shabunda. Les affrontements entre deux chefs de guerre, d'ailleurs qui ont conduit à leur mort, des blessés graves du côté de la population. Les écoles ont dû fermer. Les hommes ont été forcés de fuir dans des brousses, les yeux crevés, abandonnant leur famille.
D'autres alertes proviennent de partout. La dernière en date est celle du ministre provincial de la justice. La pression populaire l'avait poussé lui aussi lors de sa dernière visite de réconfort à sa base à demander aux Wazalendo de se désengager au chef-lieu du territoire à Shabunda Centre. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
En Ituri, la société civile Force Vive hausse le ton et exige au FARDC qu'elle accélère la traque contre les rebelles de la Convention pour la Révolution Populaire CRP, le groupe armé de Thomas Lubanga, accusé d'endeuiller la province. Une pression qui tombe deux jours après une découverte explosive à Mabanga, dans le territoire de Djougou. Les autorités ont mis la main sur une importante cargaison d'armes et munitions soupçonnées d'appartenir à cette milice. Pour la société civile, cette retrouvaille est la preuve qu'il faut agir vite. Dans sa déclaration, la structure appelle l'armée à retracer l'origine de cet arsenal afin de couper le circuit de trafic qui alimente l'insécurité. Son coordonnateur, Diedoné Lossa, réaffirme en parallèle la détermination de la société civile à mobiliser la population derrière les forces armées de la RDC pour contrer toute tentative insurrectionnelle. Diedoné Lossa est au micro de Martial Kizabiamongo.
Il y a lieu de rappeler que c'est la deuxième découverte des caches d'armes suite aux opérations militaires menées contre la CRP dans la même zone de Mabanga. Le bureau de coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri souhaite que le spécialiste d'état-major général des FARDC soit impliqué afin de retracer toutes ces armes et munitions pour que cesse définitivement cette entreprise criminelle qui a endeuillé des milliers de Ituriens et hâta freiner le développement de notre chère province. Par ailleurs, la coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri réitère l'engagement de toutes ses composantes de sensibiliser la population à collaborer avec les forces loyalistes à la prise de conscience collective pour la paix afin de barrer le libre passage à tout mouvement subversif susceptible de perturber la paix, accord fragile à Ituri.
Province du Lualaba, retour au calme dans la cité de Kakonda, territoire de l'Ouboudi, après des affrontements qui ont opposé ce jeudi les créateurs artisanaux aux forces de sécurité. D'après des sources locales, le bilan fait état d'un mort et de dégâts matériels. À l'origine de ces incidents, la mort d'un négociant de minerais abattu à bout portant par un militaire des FARDC à la suite d'une dispute. Information confirmée par le délégué administratif de la cité de Kakonda. Paulin Munanga nous fait le point.
Dans la matinée de ce jeudi, la famille du négociant qui a été abattu, accompagnée par les créseurs ainsi que la communauté, sont descendus au bureau administratif de la cité de Kakonda pour s'imprégner de la situation qui a causé la mort du négociant. Sur place, la situation a dégénéré et des violents affrontements ont éclaté entre la population et les forces de sécurité. Au jet des pierres des manifestants, les forces de sécurité ont répondu par des tirs à balles réelles, rapporte des sources à Kakonda. Une jeune femme a été touchée par une balle perdue et elle en est morte, rapporte les mêmes sources. Le délégué administratif de la cité de Kakonda annonce que les manifestants ont pillé son bureau, les bureaux de l'ANR, ainsi que les bureaux d'autres services, la maison d'un opérateur économique, et ils ont mis le feu sur un camion. Le coordonnateur provincial de l'ONG Action pour le développement intégral et durable, Adid, dans le Lualaba, revient sur la mort du négociant dans la nuit de ce mercredi et qui a déclenché les manifestations. Ben Kapajika.
Le militaire demandait les perdièmes au convoi. Et les négociants, connaissant déjà que le demande des FARDC n'était pas habilité de demander le perdium, c'est comme ça que leur dispute a tourné au vinaigre pour ouvrir les faits et le messie a succombé.
Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Et le conflit au Moyen-Orient commence déjà à se faire sentir jusque dans les liaisons entre Kinshasa et Dubaï. La fermeture de l'aéroport international de Dubaï bloque plusieurs Congolais partis pour des séjours touristiques ou commerciaux, désormais incapables de rentrer au pays. L'un d'eux, joint par Radio Capi et souhaitant garder l'anonymat, raconte son désarroi, faute de moyens pour survivre sur place. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Hong.
Moi, je suis ici à Dubaï. Normalement, je devais rentrer, je devais prendre mon avion. Le 1er mars, c'est arrivé que quand les frappes ont commencé à l'Iran, parce que moi, je devais transiter par Doha. Le 28, vers 15h, on m'a envoyé un mail en me disant que l'espace aérien qatari était fermé. Donc, je n'avais plus rien à dire. Directement, je me suis connecté à l'Internet pour voir les informations. Aux infos, on me dira que l'espace Qatari est fermé. C'était juste quelques minutes après, 30, 45 minutes après. Et on nous a aussi informé que l'aéroport de Dubaï était aussi fermé. Pendant que moi, je dormais parce que j'ai préparé mon retour, tout était déjà fait prêt pour rentrer. On nous dit qu'on ne peut plus rentrer. Donc, depuis le 28, normalement, c'est le premier le matin, puisque je devais quitter l'hôtel. Alors, le matin, l'hôtel nous a dit qu'il faut encore payer. Et l'épée que j'avais, je me suis débrouillé. J'ai payé pour 2 jours, en attendant l'ouverture de l'aéroport. Hein.
À Kinpese, dans le Congo central, un pas majeur vient d'être franchi pour booster l'entrepreneuriat local. PPC Barnett, un grand groupe sud-africain spécialisé dans la production des ciments et le projet Transform, soutenu par la Banque mondiale, vient de signer un protocole d'accord visant la création du centre de PME, un espace moderne conçu pour renforcer les petites et moyennes entreprises actives dans la chaîne de valeur de PPC Barnett. Les détails avec Blaise Shindani Kambala.
La signature est intervenue samedi 28 février 2026 au sein même de l'usine PPC Barnett en présence des équipes techniques et des différentes parties prenantes. Ce centre des PME offrira des bureaux, des ateliers équipés ainsi que des espaces de formation afin d'accompagner les prestataires œuvrant notamment dans la maintenance, le transport, la restauration, la production des équipements de protection individuelle et d'autres services connexes. Selon les responsables du projet Transform, ce centre fait partie de la stratégie nationale visant à créer des infrastructures accessibles pour les PME dans les villes ciblées et sur les corridors du Congo central. À ce jour, le projet Transform a signé des protocoles avec plusieurs promoteurs des centres dans les villes de Bunia, Kananga et dans les corridors du Congo central. Les CPME de Kinpese combinera bureaux, ateliers équipés et espaces de formation pour rapprocher et professionnaliser les prestataires intervenant dans la chaîne des valeurs locales. Le projet Transform, soutenu par la Banque mondiale, apportera un appui financier et procédera au décaissement au bénéfice des PPC Barnett et de ses partenaires d'exécution dans le respect des procédures et des contrats qui encadrent l'initiative.
Actualité internationale.
Le parquet libyen a annoncé jeudi 5 mars avoir identifié 3 suspects impliqués dans l'assassinat de Saif al-Islam Kadhafi, tué le 3 février dernier. Aucune précision n'a été donnée sur leur identité ni sur leur nationalité, mais les enquêteurs affirment avoir désormais déterminé les principaux éléments du crime. Selon les premières conclusions, 4 assaillants avaient pris d'assaut la résidence de Saif al-Islam à Zintan, à l'ouest de Tripoli. Un de ses conseillers qui s'entretenait avec lui en ligne au moment de l'attaque avait révélé le fait dans les heures qui ont suivi le drame. La sortie du parquet intervient alors que pression, rumeurs et spéculations entourent ces dossiers alimentés par les partisans et les avocats des Saif al-Islam. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le parquet indique avoir retracé le lieu de préparation des suspects, l'heure de leur déplacement vers la maison ainsi que le déroulement précis de l'attaque. Les 3 individus identifiés font désormais l'objet d'un mandat d'arrêt.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui, c'est Jean Chrysostome Kidjana, modérateur de la coalition Tous pour la paix. Il réagit aux sanctions infligées par les États-Unis à 4 hauts gradés de l'armée rwandaise, des mesures qui continuent de provoquer des vives réactions au sein des organisations de la société civile du Sud-Kivu. Jean Chrysostome Kidjana est au micro de Jean Kassami.
Jean Chrysostome Kidjana, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est votre analyse à l'égard des sanctions que les États-Unis viennent d'infliger à 4 hauts responsables militaires de l'armée rwandaise en rapport avec leur implication dans les conflits qui déciment l'est de la RDC?
La coalition Pamoja kwa Amani prend acte avec satisfaction les mesures, les sanctions qui ont été prises par les États-Unis d'Amérique contre 4 responsables rwandais, mais également et aussi contre l'armée rwandaise, les RDF, en tant qu'entité.
En quoi, selon vous, ces sanctions vont-elles contribuer pour faire bouger les lignes en poussant le Rwanda de retirer ses troupes de la RDC?
Pour Pamoudia Kouamani, c'est un pas très significatif, cette reconnaissance par de puissances internationales, notamment les États-Unis, du rôle très très déterminant que joue le Rwanda dans cette crise qui n'a fait qu'endayer notre partie orientale. Et c'est vraiment quelque chose qui nous réjouit au plus haut niveau et nous saluons cette reconnaissance. Mais est-il que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers? Nous ne devons pas penser que tout a été fait. Et il est de notre responsabilité d'interpeller encore une fois les États-Unis d'Amérique, la communauté internationale dans son ensemble, et leur dire que des sanctions, c'est une très bonne chose, des sanctions symboliques, c'est aussi une bonne chose, mais nous aurions souhaité qu'ils puissent demeurer dans la fermeté, qu'ils puissent demeurer dans une politique de tolérance zéro envers ce pays qui est en train de mettre à mal non seulement la stabilité en RDC pendant plus de 30 ans, mais également dans toute la sous-région des Grands Lacs, et connaissant bien les modus operandi des autorités rwandaises.
Qu'est-ce que la coalition aurait pu souhaiter voir les États-Unis faire encore davantage?
Nous sommes en train de demander aux États-Unis, à l'administration du président Donald Trump, de recourir à tous les moyens. À tous les moyens, et nous insistons bien, y compris à des moyens militaires, à des contraintes forcées pour obliger les Rwandais de retirer toutes ses troupes de la République de moitié du Congo et de cesser tout soutien aux groupes rebelles, à des groupes insurrectionnels qui mettent à mal la stabilité, la paix, la quiétude dans toute la sous-région des Grands Lacs. S'il faut frapper les Rwandais militairement, il faut le faire. S'il faut frapper tous ces groupes armés et les démanteler par la force, il faut le faire. Parce que nous savons comment et ces groupes armés et leurs parrains, les Rwandais, manigancent, comment ils jouent avec le temps et comment ils sont experts dans la manipulation, et nous pensons que il est temps de changer de paradigme, de tourner de paradigme et de comprendre que la paix, ce n'est pas une faveur pour le peuple congolais, la paix, c'est un droit. Et enfin, nous sommes en train de saluer ici cette avancée qui, pour nous, doit poser les jalons de la reconnaissance de tous les crimes qui ont été commis par des troupes étrangères, notamment les troupes rwandaises sur le territoire congolais, et des crimes non seulement civils, mais également des crimes économiques et des crimes environnementaux. Donc nous pensons que, au-delà des sanctions, ça pose déjà des jalons pour que la justice internationale puisse sévir dès à présent contre tous ces responsables qui ont été à la base de ces millions de morts, de ces millions de femmes, de nos enfants, de nos filles, de nos mères, qui ont été violées, les viols étant utilisés comme une arme de guerre. Voilà un peu notre réaction en tant que société civile du Kivu, en tant que coalition Pamoja Kouamani.
Quel est votre mot de la fin?
Nous allons poursuivre de notre part avec nos plaidoyers au plus haut niveau, au plus haut sommet, pour que les narratifs citoyens soient entendus, pour que la voix des victimes, la voix des communautés de l'Est soit entendue. Nous ne devons pas seulement continuer à subir, mais nous devons désormais être au cœur, être au centre, et là où on décide, là où on parle de la paix et de la situation de notre pays.
Monsieur Jean Chrysostome Kidjana, nous vous disons merci.
Oui, c'est à moi de vous dire merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup.
Jean Chrysostome Kidjana, modérateur de la coalition Tous pour la paix, était l'invité de notre rédaction. Un entretien conduit par Jean Kassami. Merci d'avoir suivi le journal sur Radio Okapi, présenté par Gisèle Cage, mise en onde André Mungu. Et n'oubliez pas, pour des infos plus détaillées, plus fouillées, plus inclusives encore, vous pouvez nous suivre à tout moment sur nos plateformes digitales et sur notre site web. L'actualité, la vraie, c'est aussi en ligne. Très bonne soirée à vous.